Il y a donc dans l'air deux sortes d'air.
Ah oui.
La curiosité est un vilain défaut.
L'hiver, il y a l'air, c'est tout. Et puis il y a le phlogiston qui transporte la chaleur.
Mais non.
Sidonie Bonnec.
Le phlogiston n'existe pas.
Thomas Hugues.
Il y a un air qui permet au feu de brûler et un qui ne le permet pas.
Vous n'allez pas nier l'existence du phlogiston. C'est écrit là-dedans.
Certaines vieilles idées, même écrites, sont fausses, voilà tout. Seule l'expérience scientifique apporte des idées nouvelles.
Sur RTL.
Mylène Farmer chante C'est dans l'air parce que on va poser une question toute simple à l'un de nos sociétaires. Bonsoir Marc-André Solos.
Bonsoir.
Bienvenue.
Heureux de vous retrouver. Vous êtes biologiste, professeur au Muséum d'histoire naturelle. Vous nous accompagnez depuis plusieurs saisons et on voulait donc que vous soyez là pour cette dernière semaine d'émissions inédites. Et on vous a réservé cette question. On ne se la pose pas et d'ailleurs on ne réfléchit même pas quand on le fait. L'air qu'on respire, c'est quoi cet air ?
Ben l'air, c'est un petit peu comme la curiosité est un vilain défaut. C'est léger et important, à la fois.
C'est gentil.
Et ben ce sont des gaz, hein, et essentiellement, c'est 78% d'azote et 21% d'oxygène.
Ça fait 99, ça. Donc,
ouais,
c'est quoi le 1% qui reste ?
Des tas de choses. Un peu de gaz carbonique, on en parle beaucoup à cause de l'effet de serre. Mmh. Un petit peu de krypton, d'argon, d'hélium, tout un tas de choses comme ça. Du gaz hilarant.
Ah
mais
bon
pas assez concentré pour que ce soit marrant. Hein.
Nous, il y a une petite concentration de gaz hilarant dans ce studio.
Grâce à l'équipe de curiosité, ouais, c'est vrai.
Et donc,
Il est composé de tout ça, mais est-ce que c'est cette composition-là, 78% d'azote, 21% d'oxygène et le reste, c'est partout pareil en fait ?
Alors à peu près dans toute l'atmosphère, ouais. Ne serait-ce que parce qu'elle est balayée par des vents qui brassent tout ça, mais plus on monte en altitude, moins il y en a. Et par exemple, on dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène en montagne et qu'on est un peu essoufflé. Bon, y en a autant en pourcentage, mais il y a tout simplement moins d'air au total. Et d'accord. C'est pour ça qu'on est essoufflé en montagne. Donc plus on va haut, plus la concentration baisse.
Mais ça veut dire quoi, il y a moins d'air ?
C'est-à-dire que les molécules de l'air, les composants de l'air sont moins concentrés. Il y en a un tout petit peu moins. Et puis quand vous allez très très haut, il n'y en a carrément plus. Vous êtes dans l'espace.
L'air qui nous permet de vivre, de respirer, Marc-André Solors, mais est-ce qu'il a d'autres fonctions ?
Ah ben, il a d'autres fonctions, évidemment. Hein. Il n'y a pas que nous qui vivons dans l'air.
Oui.
Il permet aux plantes de faire la photosynthèse. Elles prélèvent les petites traces de ce fameux gaz carbonique, hein, qui fait partie des 1% en plus. C'est aussi un endroit où beaucoup d'organismes jettent des déchets.
Ah bon ?
Par exemple, les plantes jettent un déchet dans l'air qui s'appelle l'oxygène. Elles n'en ont pas besoin. C'est un sous-produit de leur photosynthèse.
Et nous, ça nous sert ?
On a saisi l'opportunité, oui.
Et il y a d'autres déchets projetés dans l'air comme ça par des organismes ?
À part ceux de l'homme, parce qu'on met aussi pas mal de choses
en
l'air,
de la pollution,
il y a aussi tous ces micro-organismes qui rejettent dans l'air du méthane, le fameux gaz hilarant, qui s'appelle techniquement du protoxyde d'azote, tout un tas de gaz qui vont avoir un très grand rôle pour réchauffer l'atmosphère. Oui, donc il y a effectivement, aujourd'hui, l'atmosphère, c'est quelque chose qui est construit par les êtres vivants qui sont sur Terre.
Il y a ce qu'on appelle l'effet de serre aussi. C'est quoi ? Moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre. Il paraît que je ne suis pas le seul. C'est quoi et pourquoi c'est important ?
Alors, l'effet de serre, c'est important. On va voir déjà à cause de la température, parce que sinon, il ferait très froid. Et la deuxième chose, c'est que c'est important parce que ça montre comment le vivant a pris la main sur la composition de l'atmosphère, mais aussi sur la Terre. Il y a un certain nombre de gaz dans l'atmosphère, qui ne sont pas en très grande quantité, ils font partie de ces 1%, mais qui ont une propriété, c'est qu'ils peuvent absorber les rayonnements infrarouges que la Terre renvoie dans l'espace. Et ils les absorbent et ils les rendent sous forme de chaleur. Cette chaleur, elle va redevenir des rayonnements infrarouges, donc ça va finir par repartir vers l'espace, mais entre-temps, c'est resté plus longtemps et ça a réchauffé l'atmosphère. Sans eux, il ferait moins 19 degrés. Et comme la glace prendrait partout sur Terre, la lumière solaire serait réfléchie, fréquemment moins 50 degrés.
Sans cet effet de serre.
Ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en met un petit peu trop. L'homme modifie le milieu, on en met un peu trop dans l'air. Et du coup, le rhéostat, le thermostat, je veux dire, commence à augmenter. Et on passe dans l'excès. Mais c'est aussi quelque chose de vertueux, l'effet de serre. C'est ce qui fait
qu'on en parle souvent négativement de l'effet de serre.
Mais c'est comme tout. C'est la dose qui compte.
Ouais.
Et un peu d'effet de serre, ça rend la Terre vivable. Trop, ça fait monter le niveau des océans, ça déplace les espèces.
Et qui contrôle ça, Marc-André Sellos, la concentration de l'air, la qualité de l'effet de serre ?
Ça a toujours été le vivant.
Ouais.
C'est-à-dire les micro-organismes qui vivent dans les sols, dans différents endroits, qui émettent ça.
Ouais, je dis qui contrôle, c'est ce qu'il y a,
y a
des
comme
sociétés
nous,
qui ont un œil là-dessus.
Il n'y a pas de tour de contrôle. Chaque fois qu'il apparaît un nouvel interlocuteur qui envoie de nouveaux gaz, ça change le point de fonctionnement. Mmh. Et l'homme ne fait pas finalement de différence avec les autres organismes de la nature. Quand il est apparu, il a commencé à modifier l'atmosphère lui aussi.
Il simplement, est lourd, cet homme, alors qu'une femme, voyons, on ferait ça différemment.
Simplement, le résultat, il n'est pas... Bon. Les hommes et les femmes modifient l'atmosphère.
Merci.
Bah oui, ça, c'est une des marottes de Sidonie.
Vous voulez dire les êtres humains.
Marc-André Solos, vous publiez... Elle ne va pas en perdre une jusqu'à la fin de la saison. Vous publiez jamais seul, Marc-André. Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. C'est aux éditions Actes Sud. Et on va, vous l'avez évoqué très rapidement, on va découvrir dans un instant pourquoi notre air est pollué. Qui, quoi le pollue? Est-ce qu'il y a des pollutions naturelles ou seulement des pollutions liées aux humains? Tout de suite sur RTL.
Salut les champions, bienvenue sur cette vidéo qui portera aujourd'hui sur une chose qui nous entoure 24 heures sur 24, à savoir l'air.
RTL.
Un petit peu moins de 21% de dioxygène, un petit peu moins d'1% d'argon, 78,09% de diazote.
Des carottes, de l'oignon, du poireau, des pruneaux.
Ah, ça, les pruneaux, c'est une petite touche exotique voilà. Là-dedans.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut.
J'ai besoin d'air. De poireaux, il y en a dans l'air aussi, forcément.
C'est quoi ce choix de Maïté? J'aimerais bien comprendre.
Non, mais c'est vrai, c'est la composition de l'air par Maïté. Tout est vrai, c'est scientifique.
Non, mais c'est notre DJ François Touchard, donc vous avez fait la composition de l'air au programme de 4e Fit Maïté. C'est énorme. Moi, je veux la confil à la fin de la saison. Oui. Hein. Nous sommes avec Marc-André Solos, professeur au Muséum d'histoire naturelle, notre biologiste préféré à la curiosité. Et vous nous expliquez tout simplement l'air qu'on respire. Grâce à vous, on a appris que cet air se composait de 78% d'azote et 21% d'oxygène, et pour moins de 1% de gaz rares comme le gaz hilarant, l'argon, le krypton et plein d'autres choses. Et puis on y trouve aussi des traces de polluants divers. D'où viennent-ils? Qui pollue?
Il y a plein de choses qui peuvent passer dans l'atmosphère. Lors d'éruptions volcaniques, par exemple, il y a des gaz qui sont rejetés par les volcans et aussi des poussières. Quand elles sont assez fines, elles restent longtemps dans l'air. Et vous savez qu'il y a ce volcan au nom imprononçable islandais qui a empêché les avions de voler un certain temps.
Je ne vais pas essayer de le prononcer.
Et là, Jokolofoul, non?
Non, c'est pas ça, mais bien.
Il y a un peu de ça. On le retrouvera pour la fin de l'émission.
Il y a deux, trois lettres communes, ouais.
Enfin,
voilà. Qu'est-ce qu'il avait provoqué ce volcan?
Effectivement, il avait mauvaise haleine pour le coup aussi. Puisque donc, ça fait partie de ces pollutions qui peuvent d'ailleurs changer le climat. Hein. Ça obscurcit l'atmosphère et ça peut vous faire des étés.
Et c'est arrivé dans l'histoire de notre Terre d'ailleurs.
Oui, à la fin du règne de Louis XIV, on a eu quelques étés, quelques hivers comme ça, sans soleil.
Je vais
sans soleil.
Et il y a Falayokoul, mais si,
ah, voyez, ouais,
mais si je suis très honnête, c'est parce que François Touchard vient de me le souffler.
Juste à vous.
Juste à moi dans le casque, histoire que je la ramène.
J'ai perdu un ami, mais c'est pas grave.
Je sais pas si je saurais le redire tout de suite.
Une question de Béotienne, Marc-André Solos. L'air, quand vous dites ça pollue, par exemple, un volcan pollue, mais sur combien de kilomètres carrés? Je veux dire, vous voyez, est-ce qu'on respire tous le même air? Est-ce que c'est
ça s'étend
sur quelle proportion? Elle est un peu folle, cette
question. La pollution dont on parle là, cette pollution du volcan dont personne m'a dit le nom dans l'oreillette, ça s'est répandu petit à petit sur toute l'hémisphère nord.
Et oui.
Mais il faut voir que l'atmosphère s'est brassée. On a dit tout à l'heure que c'est assez homogène en composition. Ça veut dire que quand on pollue quelque part, ça passe ailleurs. D'ailleurs, on parle de pollution globale pour tous les problèmes de qualité de l'air.
Grâce au vent?
Exactement.
Ah oui.
Exactement.
Dans les pollutions naturelles, il y a les ruminants aussi. On peut les classer là-dedans?
Oui, alors les ruminants renvoient beaucoup de gaz dans l'atmosphère, notamment. Ils abritent beaucoup de microbes qui font du méthane. Mmh. Une vache produit 500 litres de méthane par jour. Et justement, l'extension du cheptel bovin, c'est une des choses qui contribue à l'effet de serre. Mais il y a aussi tout un tas de polluants. Les premiers polluants de l'atmosphère, ce sont les plantes. Alors ça, vous le savez, parce que vous avez déjà vu sur les tableaux de la Renaissance, on commence à avoir des clairs-obscurs. Vous savez, plus un plan est loin dans la peinture, plus il est nimbé d'une espèce de brume gris-verte. Et ça quand vous regardez dehors un paysage et que vous voyez très loin, vous voyez que plus c'est loin, plus c'est nimbé d'une espèce de brume. Et bien ça, ce sont des hydrocarbures qu'émettent les plantes et qui leur permettent de faire une sorte de crème solaire pour elles. Et aussi d'échanger des signaux, de repousser des insectes et des choses comme ça. Et en quantité, cette émission de molécules dans l'atmosphère, les plantes en émettent beaucoup plus que nous émettons de particules et de gaz dans l'atmosphère. Sauf que là, c'est recyclé. Alors que nous, ce qu'on émet dans l'atmosphère... Les écosystèmes peinent encore à le recycler et donc ça s'accumule.
Et ces processus justement de pollution, est-ce qu'ils sont irréversibles, Marc-André Solos?
Alors ceux, par exemple, par ces hydrocarbures de plantes, ils finissent entraînés par la pluie sur le sol et mangés par des microbes du sol.
Mmh. Mais les nôtres?
Les nôtres, c'est un peu plus difficile. Mmh. Alors, ils finissent aussi par se purger. Mais entre-temps, ils peuvent nous avoir endommagé la vie. Par exemple, nos activités produisent de l'ozone. Et l'ozone, à basse altitude en tout cas, c'est quelque chose qui est très irritant, qui peut d'ailleurs expliquer le dépérissement des plantes en ville. et qui fait partie des choses qui fragilisent les poumons des gens. Hein, la pollution atmosphérique, ça tue des milliers de personnes par an en France. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça fragilise beaucoup et notamment...
Mais surtout qu'on n'en parle pas beaucoup.
Ben oui. Alors, toutes les molécules qui font ça, évidemment, elles finissent par disparaître. Même quand il y a des pollutions aux microparticules qui font que, comme la semaine passée, on ne peut plus circuler à Paris. De fait, ça disparaît, c'est ramené au sol par la pluie. L'ozone, il finit par disparaître, sauf qu'on en reproduit perpétuellement. Et tant qu'on est là, on perturbe notre qualité de vie par la qualité de notre atmosphère.
On a parlé plusieurs fois du vent, et puisqu'on est dans l'air, il faut parler du vent. Comment il se forme, le vent? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, il y a des vents de plusieurs dizaines de kilomètres heure qui se forment?
Pour faire simple, il y a des endroits qui chauffent, parce que par exemple ils sont au soleil, et d'autres endroits qui chauffent moins. Parce que, par exemple, on est sur la mer, et que dans la mer, la chaleur est absorbée par l'océan. Ouais. Et du coup, quand l'air est chaud, il est peu dense. Et quand l'air est froid, il est très dense.
Okay.
Et quand vous avez quelque chose qui est très dense, qui pèse beaucoup, à côté de quelque chose qui ne pèse pas beaucoup, naturellement, il va occuper la place de ce qui ne pèse pas beaucoup. Donc vous avez un flux qui va des zones les plus fraîches vers les zones les plus chaudes. C'est comme ça qu'on a souvent une brise de mer. Quand on est sur le continent, on a souvent la mer qui vient de l'océan, parce que l'océan, il se réchauffe moins vite que la Terre.
Il y a quelques semaines, à l'émission de radio où je travaille, j'ai reçu la question d'une auditrice qui demandait « Quelle est la composition de l'air dans les cavités du poivron ?» Si c'est creux, c'est bien que ça doit être rempli de quelque chose, et ce quelque chose, qu'est-ce que c'est ?
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Je vous donne tout de suite la réponse. Les gaz contenus dans les cavités du poivron sont similaires à l'air ambiant, à l'exception de... trois gaz. Et ces différences viennent des activités du poivron.
Les curieux sont sur RTL.
Ce qui nous intéresse ici, ce sont les gaz. Beaucoup de mauvaises blagues pour être faites ici. Mais je suis une personne distinguée, je vais donc m'abstenir.
Le paix du poivron, quand même, j'avais
jamais entendu ça. Non, moi je sais qui est l'auteur de ce choix de mise en onde.
Ah oui, il fabrique lui-même ses mises en onde, François Touchard.
Il fabrique lui-même ses mises en onde.
En famille, chez lui.
On va quand même vérifier auprès de notre invité Marc-André Salos. On avait résisté aux blagues pour l'instant, et ouais. On était très très fort. Ce qui vient d'être dit dans ce tuto sur YouTube, c'est vrai, c'est-à-dire que le poivron, il bloque son propre air, et donc il est un peu différent de celui de l'extérieur.
Ah bah oui, mais c'est un peu comme l'air qu'on a dans les poumons. C'est-à-dire que justement, le poivron, il respire. Parce que c'est un végétal qui n'est pas vert. C'est une partie du végétal qui n'est pas vert. En tout cas, s'il est mûr.
Ouais.
Donc, les tissus respirent pour faire de l'énergie.
Ouais.
Donc, ça consomme de l'oxygène et ça libère du CO2. Donc, dans le cœur du poivron, vous allez avoir plus de CO2 que dans l'air et moins d'oxygène. Puis, comme c'est humide, un poivron, vous aurez plus de vapeur d'eau. Oui, parce que dans les 1% d'autres gaz, il y a notamment de l'eau vaporisée aussi. Et dans le cœur d'un poivron, c'est plus humide qu'à l'extérieur.
Ouais. On parle d'air sec ou d'air humide. C'est quoi la différence en fait? Quand il fait très chaud, on ressent parfois de l'humidité, ou alors au contraire, on a l'impression qu'il n'y a pas un souffle d'air, qu'on est dans un grand sèche-cheveux là.
Alors en fait, il y a de l'eau qui peut passer sous forme gazeuse dans l'air, et il peut en passer d'autant plus que l'air est chaud. Et c'est pour ça que quand l'air se refroidit, eh bien cette eau se condense et c'est l'origine de la pluie. La pluie, elle vient quand l'air se refroidit, et donc vous avez votre gaz qui commence à former des gouttes, et quand ces gouttes sont assez grosses, elles vous tombent dessus. Et alors justement, il y a une chose intéressante dans la sensation de chaleur. Tant que vous êtes dans de l'air qui n'est pas saturé en eau, c'est-à-dire où il n'y a pas plein de molécules d'eau qui peut en accueillir encore, eh bien, vous évaporez votre eau. Et donc, un air sec vous paraît moins chaud parce que vous vous refroidissez en évaporant de l'eau.
Okay.
Alors que si l'air est saturé, comme sous les tropiques souvent, vous ne pouvez plus évaporer parce que l'air est déjà bourré d'eau, il ne peut pas en accueillir
plus. Il n'en veut plus, oui.
Et du coup, vous avez une plus grande impression de chaleur parce que vous ne vous refroidissez pas en évaporant de l'eau. En évaporant de la sueur, en l'occurrence.
Marc-André Salos, on va remonter dans le temps avec vous. Il y a 2,4 milliards d'années, la Terre existe, elle, depuis plus de 2 milliards d'années, mais son atmosphère est encore bien différente de celle d'aujourd'hui, c'est ça?
Oui, parce qu'il y a deux couches, deux origines d'atmosphère. Il y a ce qui est sorti des roches qui se sont réunies pour faire la Terre. Et bien, figurez-vous que là-dedans, il n'y a pas d'oxygène.
Il y a de l'eau,
il y a de l'hydrogène, il y a du gaz carbonique, mais il n'y a pas d'oxygène. Ah, puis il y a aussi de l'azote, bien sûr. Mais il n'y a pas d'oxygène. Et l'oxygène, en fait, on l'a dit tout à l'heure, c'est un déchet de la photosynthèse. Et à un moment, il y a 2 milliards d'années, apparaissent des petites bactéries. À l'époque, c'est des petites bactéries qui font la photosynthèse.
Mais elles le font où? Elles le font sous l'eau?
Alors, à l'époque, elles le font sous l'eau, oui, ouais. C'est des bactéries qui vivent dans ce qu'on appelle le plancton, les petites cellules qui sont dans l'eau, mais peut-être aussi sur certaines roches, à la rigueur. En tout cas, elles commencent à faire la photosynthèse, ça leur permet d'utiliser l'énergie du soleil pour faire du sucre et leur matière, mais elles font un déchet que font encore les plantes qui font la photosynthèse d'aujourd'hui, l'oxygène. Et l'oxygène qui est dans l'atmosphère, c'est un produit, encore un produit qui montre que le vivant fabrique une partie de l'atmosphère, c'est la deuxième origine. Il y a les restes des gaz qui sont arrivés, et puis il y a ceux qui ont été rajoutés par l'activité du vivant.
On dit souvent léger comme l'air. Ça pèse combien?
On dit pas ça de vous. Ah,
non, bah non, moi évidemment, vous savez bien. Si je peux plus faire mes propres vannes sur mon poids, ça va pas. Léger comme l'air, ça pèse combien?
Humour, moi,
un litre d'air.
Je sais pas quelle est l'estimation de Maïté sur la légèreté de l'air.
Bonne blague, Marc-André.
Moi, grâce à votre préparation de l'émission, je découvre que c'est 1 kg par centimètre carré. Merci d'avoir mis le chiffre. Plus sérieusement, ça dépend de l'altitude. Parce qu'en fait, le poids de l'air, c'est le poids de toute la colonne d'air que vous avez au-dessus de vous, qui appuie sur vous. Plus vous montez en altitude, plus cette colonne est réduite, puisqu'on sait qu'à un moment, il n'y a plus d'air très, très en altitude. Du coup, ça dépend de l'altitude. La réponse est ça dépend de l'altitude, et le chiffre est effectivement moyen, c'est 1 kg par centimètre carré, mais ça varie. Mais et c'est à cause des variations qu'il y a des vents.
Mais ça, moi, ça me semblait. J'étais très surpris par ce chiffre, c'est pour ça que je l'ai noté. Un kilo de pression par centimètre carré.
Ah, c'est votre chiffre. Hein.
Oui,
moi,
non,
j'ai pas de chiffre.
Ça me semble étonnant, vous voyez ce que je veux dire, parce que.
Oui, mais c'est de toutes parts.
C'est réparti.
Le truc,
en fait,
c'est que ça appuie de tous les côtés.
Ouais.
Et donc, c'est pas comme si on vous appuyait dessus avec un pouce géant pour vous aplatir. Ouais. C'est comme quand vous êtes dans l'eau. Ça appuie de tous les côtés.
Ça s'équilibre.
C'est marrant, Marc-André Selosse, parce que vous parlez de pression, la pression de l'air, il fait froid, il fait chaud, etc. Mais nous, on ne sent jamais ça. Quand on fait des mouvements avec les bras, on a l'impression qu'il y a zéro pression. Ou alors c'est parce qu'on est habitué qu'en fait, il y a de la pression.
Il y a une légère pression, mais d'abord, on est habitué. Hein, ça fait partie de choses qu'on ne sent plus. Et d'autre part, c'est quand même pas énorme. Et puis en plus, comme on l'a dit, ça vient de toutes parts.
Est-ce que, par exemple, si l'air était un peu différent, avec des compositions différentes, on pourrait voler?
Alors,
être plus
on
léger.
Pourrait au moins. Oui, alors, c'est pas sûr, parce qu'en fait, ce qui nous empêche de voler, c'est la gravité.
Ouais.
Et donc, pour ça, il faut être très loin de la Terre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plus d'air à basse altitude. C'est parce que les molécules de l'air, les gaz de l'air, subissent aussi l'attraction de la Terre. Et qu'ils ont tendance à se regrouper plus près de la Terre qu'au loin.
Merci beaucoup Marc-André Selosse. Alors, je vais citer deux de vos livres. Il y a celui dont on n'a parlé jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. Et puis, il y a aussi les goûts et les couleurs du monde. Vous étiez venu nous en parler d'ailleurs, une histoire des tanins. Là aussi, c'était passionnant. Et les deux livres sont chez le même éditeur. C'est Actes Sud. Merci encore.
Merci pour ces 6 saisons de bonheur avec vous et de compréhension.
C'était un plaisir, un vrai plaisir.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.